Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Radio Campus Lille le dimanche de 11h à midi. Au sommaire de cette toute dernière émission de l'année, nous avons rendez-vous avec Gilles Fagnin pour l'actu du Superbac et de l'Endurance. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour, avec une interview exclusive de Dominique Mélian, une interview que j'ai réalisée vendredi soir à Ronchin.
Très bien, ben moi, écoute, je vais te dire une chose, ben moi aussi j'ai une interview de Lou Roussy qui était dans notre métropole il y a trois jours. Donc également, on va avoir un interview d'ici, on passera ça d'ici une trentaine de minutes, hein, l'interview de Louis Roussy. Voilà, au sommaire de cette, coup d'œil aussi dans le rétro avec notre invité Robert de Godet. Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Coup d'œil dans le rétro avec le retour sur la 10e édition du Moto Tour.
Oui, bien sûr. On était un paquet de nordistes et puis on était bien représentés. La plus grosse équipe.
C'était début octobre.
Donc dans
la catégorie ancienne.
Catégorie ancienne pour ce qui me concerne avec Bruno Pernasti et puis d'autres. Et puis catégorie moderne avec d'autres nordistes, des Nainquerquois, des gars du coin. On était quand même 17 engagés.
Ouais, tu nous parleras aussi du calendrier. Du calendrier avec le rallye des Ch'tis Givré.
Oui, on est déjà en 2013. Hein, donc
ça y est,
hein,
c'est là.
Journée circuit et puis d'autres manifestations.
Et puis Clastres aussi.
Clastres aussi.
La démonstration.
Oui.
Et puis c'est tout.
Bah, vous êtes déjà pas mal. Mais il y a d'autres journées anciennes sur lesquelles on peut revenir aussi. Et j'ai déjà les dates en tête.
Et puis on parlera aussi un petit peu du rallye de Tunisie où tu as participé en tant qu'ouvreur.
En tant qu'ouvreur, oui. Une nouvelle expérience. La navigation.
C'était une première.
C'était une première. J'ai déjà fait en 86, 87. Mais là, c'était en tant que concurrent en tout terrain. Mais là, c'est autre chose sur route, quoi.
Très bien. Eh bien, écoute, tout ça dans quelques minutes.
We'll be right back. our gang and take a drive. Leave the city way behind. The sun roots down, the radio's on. We're screaming out our favorite songs. Gonna drink some beers and party down. And find some place where the music's loud.
L'actu du Superbac et l'endurance aujourd'hui avec Gilles Fagnin. Gilles, c'est à toi.
Ouais, avec une question quand même quand tout le monde se pose. Vivra-t-on l'an prochain une aussi belle saison que cette année?
Bah, je pensais que tu allais nous parler de la fin du monde arrive là à grands pas. Hein,
alors, ça, c'est un autre débat. Mais bon,
y aura-t-il un championnat du monde d'endurance l'année prochaine?
En imaginant dans nos rêves les plus fous que la fin du monde n'aura pas lieu, dans ce cas-là, peut-être on vivra. Alors, est-ce qu'on vivra une aussi belle saison que cette année? Rien n'est moins sûr parce que la prochaine saison s'annonce quand même difficile hein, dans un championnat qui compte certes 5 constructeurs engagés, mais qui, à ce stade du calendrier, ne promet que 16 pilotes. Donc, un plateau qui se réduit, un peu comme en GP. Alors, c'est d'abord dû à la fonte des Ducati. Hein. On est passé de 7 à seulement 3 avec l'adoption de la nouvelle Panigale, c'est-à-dire qu'il y a des teams qui n'ont pas eu peut-être l'argent pour investir en cette nouvelle machine. Robert doit bien connaître. C'est Aprilia qui devrait revendiquer cette année le plus de machines durant la future saison. Il y a en effet 4 RSV4 inscrites, mais BMW peut encore faire aussi bien, voire mieux, puisqu'il y a un certain nombre de teams qui réfléchissent actuellement. Ensuite, il y a éventuellement un projet, notamment par Effenberg Liberty, avec une nouvelle écurie qui serait soutenue par AirAsia. AirAsia qui vient d'ailleurs de commander une quarantaine d'Airbus pour un contrat faramineux. Donc ils ont de l'argent. Hein,
ils ont du fric.
Il faut prendre l'argent où il y en a. Enfin, Kawasaki peut-être pourrait aussi également porter sa contribution avec un team Pedercini, un team historique en Superbike qui est actuellement en réflexion sur la concrétisation de ses ambitions. On ne sait pas encore. Ce qui, en ces temps difficiles, économiques, fait beaucoup d'interrogations et qui pourrait éventuellement pousser la Dorna à tailler un peu dans le règlement pour réduire les coûts, notamment les coûts pour les teams. Alors, en termes de teams, chez Aprilia Racing Team, on aura Eugene Laverty, l'Irlandais, aux côtés de Cocorico, Sylvain Guintoli, notre meilleur représentant et peut-être celui qui a des chances, Robert, de l'emporter.
Bah, je pense qu'il faut qu'il saisisse sa chance cette année. C'est une moto officielle qui est quand même championne du monde. Pas oublier Kawasaki quand même, hein, parce qu'il finit vice-champion du monde à un demi-point.
Ah, on va en parler. Alors, ensuite, il y a Team Altea, avec Davide Giugliano, le jeune champion montant. Et puis, il y a un team Red Devils Aprilia, avec Michael Fabrizio. Alors, chez Kawasaki Racing Team, il y aura Tom Sachs et le petit jeune qui monte, 20 ans. Le 5 août, c'était une date historique cette saison, il a gagné la course en Angleterre devant tous les grands champions de Superbike. Loris Baz, un pilote qu'il va falloir suivre cette saison, qui est absolument incroyable et sur la Kawasaki, il se sent super bien.
Ah ouais. Oui, bah, on voit qu'il fait Coravette, il a gagné quand même sous la pluie dans les conditions difficiles. On rappelait que le petit jeune homme, quand même, il fait plus d'1m90.
Ah, quand même.
C'est un beau morceau.
Anodin.
Et c'est un Savoyard. Hein,
il a pas encore fini sa croissance alors.
Et donc il est habitué aux conditions climatiques difficiles, puisque en fait il est gagné sous la pluie, et sous la pluie on l'a vu réaliser des prodiges. Chez Honda Racing, l'écurie Pata, qui est une écurie aussi historique, qui accueillera Jonathan Rea et Leon Aslam, deux super pointures aussi. Leon Aslam, c'est un ancien champion Superbike, British Superbike. Alors, retour de Suzuki avec Crescent Fixie Suzuki, avec un de nos meilleurs représentants, Jules Cluzel. Jules Cluzel et Léon Camier. Alors Jules Cluzel aussi, pareil.
Hein. Bah, vice-champion du monde Supersport.
Supersport, hein, carrément étonnant. Ensuite, bah, on a Carlos Checa, hein, le champion de l'an dernier, qui courra chez Alstar Ducati. Et Ayrton Badovini, qu'on connaît un petit peu moins. Marco Melandri représentera BMW avec aux côtés de Chas Davis. Et puis on a un team Grillini Progea, team BMW également, avec Vittorio Iannuzzo, beaucoup moins connu. Et puis quelqu'un qui était aux avant-postes à une époque, Mike Snoy-Kirchner, qui va représenter aussi un team privé Ducati, MR Ducati Team. Voilà, donc il y aura en tout 14 dates dans ce championnat, dont notamment très remarquable une date en Inde. C'est une nouveauté, sur le Bud Circuit. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est le retour d'hier soir. le Bud Circuit, qu'est-ce que c'est? C'est un circuit en Inde, hein, qui est un circuit automobile, qui est à l'origine un circuit qui appartient à un grand groupe financier, voilà, et qui est non loin de, qui se trouve non loin de Bombay. Voilà, donc il y a 16 virages, c'est un circuit relativement intéressant. On pourrait y aller, mais malheureusement c'est le même temps que Pécancourt, donc ils ont mal choisi la date.
Pas de bol.
Donc le championnat se démarre à Phillip Island. Phillip Island qui au passage a investi quelques millions d'euros pour refaire la. On sait qu'il y avait un peu pas trop de grippe avec le sable, avec il y a des conditions climatiques souvent Phillip Island compliquées. Et les travaux sont en cours. Je pense que c'est 400 millions d'euros, je pense, de mémoire, qui ont été investis pour refaire un bitume au tip top. On espère que ce sera terminé pour. Il y a la première course, en fait, c'est une course classique qui va y avoir lieu, course motentielle.
Je sais pas si à Croix-en-Ternois ils ont investi 400 millions d'euros. Hein.
Non, mais par contre, parallèle intéressant. J'y suis passé cette semaine, l'asphalte est terminé. Ouais. J'y suis passé il y a deux jours d'ailleurs.
Alors, t'as testé un peu le.
L'asphalte est terminé, ouais. Il reste à faire les rails, les zones de sécurité. Mais c'est pareil, ça sera ouvert début janvier, en même temps que Phillip Island. Donc voilà.
Très bien.
Alors, on renouvelle aussi la course à Moscou. Hein. Vous savez que l'an dernier, c'était une première, cette course à Moscou, avec aussi un team qui va accueillir Yakhnich, le pilote russe, qui avait gagné notamment chez lui. Qui avait quand même épaté en super sport. Voilà, un peu pour les infos, Superbike. On vous en dira plus au fil du temps, le mois prochain, l'année prochaine.
Bon, l'année prochaine, normalement, hein.
Si tout va bien. Going on.
Bon, dites là, Robert et Gilles, si je vous dis Rossi, ça vous dit quoi?
Valentino.
Non, ben non, justement, non, il y a un autre pilote qui porte le nom Rossi, c'est notre
bien
pilote
sûr.
Français Louis.
Bien sûr.
Louis Rossi. Et tu sais que ben, les pilotes, l'hiver, la saison est terminée là, en novembre ou octobre, je sais plus, ben, les pilotes font du cross, font du motocross. Et puis, ben, Louis Rossi était venu chercher sa moto de cross ici, cette semaine, dans un grand pôle moto à Seclin. Hein. Et puis j'ai eu l'occasion de faire un interview avec lui, Louis Rossi. Donc il nous parle un petit peu de la vie de pilote. Il nous parle aussi du Grand Prix de France. Vous vous souvenez, c'était dantesque la victoire au Grand Prix de France. Il y avait une pluie battante.
Ah,
c'était incroyable.
On est passé à deux droits de la catastrophe.
Souvenez-vous, on lui dit, il avait presque une minute d'avance sur son sur le deuxième qui était le pilote qui était juste derrière lui. On lui dit mais il va rendre un petit peu la main quand même, il va essayer de gérer. Et ben non, en fait il montre une belle photo, effectivement c'est pas très radiophonique, mais ah oui,
on est passé à deux doigts de la catastrophe,
effectivement, ouais. Et, ouais. Il a juste évité le pilote qui était juste de devant lui,
et on a failli faire le doublé sur l'homme et Jarko,
et on a failli faire le doublé effectivement en moto 2,
mais
c'est pas arrivé, voilà. Donc, eh bien, voilà, on va vous passer cette interview de Louis Rossi qui a été réalisée cette semaine.
Voilà, je suis en compagnie de Louis Rossi. Louis, bonjour.
Ben, bonjour à vous.
Je tiens à préciser aux auditeurs que tu n'as aucun lien de parenté avec Valentino Rossi.
Mais non, on est présent sur les week-ends ensemble, mais c'est pas mon père, ni mon cousin, ni mon frère, mais voilà.
Voilà, bon, parce que les auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, je voudrais parler un peu de cette saison 2012 où tu as terminé 11e, ce qui est une bonne place, parce que j'ai vu que dans la catégorie, il y avait 49 participants.
C'est à la fois, c'est pas tellement un bon résultat, puisque nous, nos objectifs, c'était plutôt de rentrer dans le top 5 et donc de finir presque sur le podium final à la fin de l'année. Et puisqu'on avait le niveau de rouler devant, et à chaque course, on l'a prouvé, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc beaucoup de résultats blancs, donc peu de points. Et on termine 11e, donc pas vraiment dans nos objectifs, mais c'est pas grave, ça nous a quand même permis d'avoir de bonnes surprises à la fin de l'année.
Quand même une nouvelle catégorie, donc Moto 3 avec des moteurs 4 temps.
C'est ça, bah, il a fallu s'adapter, mais bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire, puisque tout le monde découvrait cette catégorie en même temps. Et c'est une catégorie qui a très bien marché, puisqu'elle a offert un spectacle qui était vraiment très intéressant. Et tous les spectateurs se sont régalés chaque week-end à suivre ces courses et puis nous à les faire. Donc c'était vraiment parfait.
La différence entre un moteur 2 temps, les 125 2 temps et ces fameuses nouvelles 4 temps?
Ah bah c'est le bruit qui est différent. Moi j'ai perdu quelque chose parce que je suis un admiratif du deux temps et c'est quelque chose que j'adorais. Et c'est vrai que déjà d'un point de vue technique en pilotage, c'est un peu plus simple de piloter sur un 4 temps comme sur lesquels on a roulé. Et puis après au niveau de la mise au point pour les équipes, je pense que c'était aussi très intéressant le deux temps. Mais voilà, ça peu importe, ça a fait une très belle catégorie, un très beau spectacle.
Tous les pilotes regrettent ces fameuses, même l'ancienne catégorie 500. Hein, donc je suppose que vous, en 125, c'est pareil. Vous regrettez ces motos qui étaient fougueuses.
Ben, je pense pas. Enfin, on les regrette. On est pas forcément, mais en tous les cas un peu nostalgique, mais parce qu'on est toujours nostalgique du passé, j'imagine. Mais c'est sûr qu'au niveau du pilotage, c'était tellement extraordinaire ces motos que quelque part ce serait pas mal qu'on y retourne, mais il faut y rester lucide et les grands prix doivent correspondre aussi à une vitrine des concessions, parce que sinon ça n'aura aucun sens.
Oui, alors donc on va revenir un petit peu sur cette saison 2012. Quel est ton plus beau souvenir? Je pense que tu vas me dire que, enfin, je vais pas le dire.
Ben c'est le Mans, bien évidemment, puisqu'on a gagné le Mans cette année et c'était quelque chose d'incroyable, puisque je suis natif du Mans. Il y avait tous mes partenaires qui étaient là, mes amis, ma famille, et puis une course difficile, premier podium en Grand Prix, première victoire, et ça pouvait pas mieux tomber. Donc c'est un souvenir inoubliable pour moi et comme pour beaucoup de personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui.
Alors durant cette course, parce que j'ai assisté, hein, il faut dire, j'étais là aussi, tu t'es retrouvé seul et à un moment tu t'es posé des questions, t'avais un panneautage qui te disait trois tours, je ne sais pas si tu as compris exactement le panneautage.
Si, je le comprenais bien, surtout que je voyais mon équipe qui se mettait presque, enfin qui sortait complètement du muret pour me demander de ralentir, mais le problème de la pluie, c'est que quand on ralentit, les pneus baissent en température, qu'on peut glisser et que le rythme n'est pas le même et qu'on peut faire une erreur justement à vouloir en rouler mis en sécurité. Donc j'ai conservé, j'ai pris une marge d'une seconde d'erreur autour et pour rester voilà, sur le même rythme que j'avais eu tout le reste du temps. Et c'est ce qui m'a permis de rester constant et sur mes roues.
Donc, même avec l'appui, il faut toujours mettre une certaine pression quand même et toujours rouler à une certaine vitesse.
Oui, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, justement, voilà, c'est là qu'arrivent des erreurs ou c'est là qu'arrive le. Enfin, quand les pneus baissent en température, ça grippe, y a beaucoup moins de grippe et il faut absolument tenter de conserver ça.
Donc, ça, c'était ton meilleur souvenir, hein, Le Mans 2012 et le plus mauvais pour cette saison ?
Je pense que je mettrais ça sous le compte de la Malaisie, puisque la Malaisie, on a vraiment fait un week-end qui était très construit, on avait bien travaillé, et en qualif, on était bien placé puisque j'étais première ligne, et en course, je suis tombé alors que j'étais sur le podium et que le trou était fait derrière, donc ça fait partie des mauvais souvenirs, sachant que l'erreur venait de moi et que si j'avais été un petit peu plus malin, ça ne serait pas arrivé.
Donc tu es un peu reproduit de l'école de l'FFM en fait, hein.
C'est ça, j'ai commencé dans une coupe de marque qui était associée à la Fédé, j'ai poursuivi dans une autre coupe de marque qui était encore associée à la Fédération, puis l'équipe de France, puis l'équipe de Grand Prix, qui était aussi l'équipe de la Fédération Française de Moto. Et puis ensuite, une fois que cette aventure-là s'est terminée, j'ai continué d'avoir le soutien de ma Fédération, sans pour autant rouler dans des équipes qui lui appartenaient ou des coupes de marque qui lui étaient propres, mais voilà, toujours sous les couleurs de la Fédé.
Ce qui montre que finalement cette école, ça marche.
Bah en tout cas, elle marche et elle permet aux jeunes de pouvoir commencer la moto et de faire quelque chose. Maintenant, il y a tout à parfaire comme dans tous les milieux. Mais dans tous les cas, ça a le mérite d'exister, de fonctionner, puisque moi, ça m'a permis d'arriver au plus haut niveau et de progresser.
Donc ça, c'est le passé. L'année prochaine, on va te retrouver en moto 2. Donc ça y est, tu passes une catégorie. Et donc dans un team français, Tech 3.
Exactement, c'est un rêve de gosse. On peut le dire comme ça, puisque c'est une équipe qui a vraiment beaucoup, enfin une histoire vraiment merveilleuse, et de pouvoir y mettre un pied, c'est quelque chose qui était presque inenvisageable pour moi il y a quelques années, et ça promet beaucoup de choses, puisqu'on a un réel programme de travail pendant l'hiver et puis sur deux saisons avec une belle aventure humaine qui se met en place.
Est-ce que pour un pilote, c'est ce qu'il y a de plus dur, est-ce que tu dois ramener un budget ou non, tu te contentes de piloter uniquement?
Non, ce serait trop beau, même si c'est vrai que toutes les années d'avant, j'ai toujours dû ramener des budgets aux équipes pour pouvoir rouler. Cette année, il y a une grosse différence, c'est que j'ai pas besoin de ramener un budget à l'équipe pour rouler, mais par contre, ça me permet de pouvoir mettre en place un programme d'entraînement autour de moi, donc avec un bon entraîneur, avec une moto que j'ai achetée pour pouvoir rouler, de louer des circuits pour pouvoir m'entraîner, de payer mes frais de déplacement, donc c'est tout ça qui constitue un budget. Donc même si je ne dois pas payer l'équipe, j'ai des frais pour m'entraîner qui sont des frais nouveaux que je ne connaissais pas avant, et je suis heureux de les avoir parce que ça veut dire qu'on progresse et que c'est super.
Alors finalement, je voudrais connaître vraiment la vraie vie d'un pilote, parce qu'à partir du mois de mars, le premier Grand Prix arrive, et après tu es pratiquement toujours sur la route, vous êtes en Europe, en Australie, en Amérique.
Oui, c'est vrai qu'on est souvent en déplacement, même si ça a pas le même aspect que le Continental Circus de l'époque. On est quand même, enfin moi dans mon camping-car avec d'autres pilotes, et on roule, on traverse l'Europe, et puis après on prend l'avion pour aller en Outre-mer, et c'est vrai qu'on est souvent en déplacement, mais c'est super enrichissant.
Finalement, vous avez une vie fantastique.
Oui, je pense que quand on fait ce qu'on aime, on a une vie fantastique, autant que plein de gens que je rencontre qui n'ont pas forcément des métiers comme ceux de pilote, mais qui sont très heureux de faire ce qu'ils font, et c'est un régal de parler à des gens qui sont passionnés, comme moi je peux l'être, ou comme tout plein d'autres personnes peuvent l'être.
Bon, écoute Louis, on va terminer cette interview, mais j'ai vu que tu es un joueur d'échecs.
Exactement. Quand j'étais plus jeune, je faisais des échecs, donc voilà, je faisais des concours, des petits championnats, et puis ça me plaisait beaucoup, je trouvais ça sympa. J'ai un peu lâché l'affaire, hein, maintenant je dois avouer, mais voilà, non, c'est quelque chose que j'ai fait étant plus jeune.
Ce qui me permet de faire calculer peut-être en course un petit peu, parce que c'est pas le tout d'être toujours être premier, de mettre la pression, ou mettre la pression sur le pilote qui est devant toi peut-être, et de faire une partie avec lui peut-être.
Bah, je pense que voilà, il y a un aspect un peu calculateur dans le jeu d'échecs, et c'est vrai que ça m'aurait bien servi de m'en rappeler cette année, puisque j'ai fait pas mal de chutes et sur des erreurs où je me suis un petit peu emporté, donc j'aurais mieux fait de me rappeler des leçons du passé, mais des fois c'est pas évident, et il faut qu'on travaille là-dessus maintenant pour l'avenir.
Ben Louis, je te remercie et puis je te souhaite une très bonne saison 2013.
Eh ben merci beaucoup et bonjour à Kikin Kouté Toupal.
Merci.
In my mirror, I see a man that's great. And in my mirror, I see
Échec et mat, Gilles. Quoi ? Bah oui, tu savais pas que Louis Roussy jouait aux échecs.
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Est-ce que tu sais que échec et mat, c'est de l'arabe ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oh, j'en sais pas, écoute.
Ça veut dire le roi est mort.
Ah ben voilà.
Le roi Roussy est mort. Non, bon. Un peu de sérieux, on va parler endurance maintenant avec effectivement le championnat 2013 qui se profile. Cette année, l'endurance a connu une petite baisse de fréquentation et qui inquiète un petit peu les pouvoirs sportifs, notamment la FFM et la FIM. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette année, le championnat sera réduit à 4 courses uniquement. Alors, je vais vous les citer puisque c'est pas long. Seulement 4 courses, ça va démarrer à Magny-Cours le 20 avril pour le Bol d'Or, puisque vous savez, on est encore sur l'inversion des dates par rapport à ce qui se faisait traditionnellement. La deuxième course, ce sera à Suzuka le 28 juillet. Il y aura une course, alors je conseille à tous les nordistes, les motards qui roulent, qui ont envie d'aller voir une épreuve, parce que l'accueil des Allemands est extraordinaire, à Oschersleben, le 18 août, si vous n'êtes pas en vacances, je pense que ça va être un beau week-end, Oschersleben, et puis on terminera par Le Mans. Ce sera plus début septembre comme cette année, parce que à mon avis, il y a eu, et la FIM le reconnaît, une petite erreur de date, ce sera le 21 septembre, 21 et 22 septembre, ce qui permettra d'avoir peut-être certainement un peu plus de public que cette année, parce qu'on a connu là vraiment, sur Le Mans cette année, qui a eu lieu début septembre, il y a eu franchement une baisse de fréquentation. Ceci dit, le championnat est toujours aussi disputé et j'ai eu la chance de rencontrer vendredi soir Dominique Mélian dans la région. Ça faisait un bon moment qu'il n'était pas venu. Et vous allez voir, il nous dit des choses vraiment très intéressantes par rapport à ce championnat 2013. Un scoop carrément, alors on y va.
Bonjour Dominique, alors ici on est à Ronchin et qu'est-ce qui on vient de surprendre ici alors que tu viens dans le Nord, c'est quand même incroyable.
Ben oui, mais le pays est beau si tu veux, le pays du Nord est un pays superbe, c'est vrai que là il pleut aujourd'hui mais il pleut un petit peu partout donc faut pas non plus être mauvaise langue. Donc oui, grand plaisir de me retrouver à Ronchin, puisque c'était l'ouverture d'un magasin Suzuki, un regroupement de plusieurs magasins. Donc je trouve ça un petit peu fabuleux déjà d'ouvrir un superbe magasin. Et puis un petit coup de pouce si c'est possible. Il y a plein de monde, il y a une bonne ambiance, donc c'est tout agréable. Mais je crois que c'est l'ambiance du Nord qui veut ça.
Merci, c'est trop. Mais effectivement, ça fait combien de temps que tu n'étais pas venu dans le Nord, dis-moi ?
Ben, franchement, un petit bout de temps, mais pour être clair, j'ai de la famille à Lille, que j'étais leur rendre visite tout à l'heure, mais je suis quand même venu j'ose plus calculer, une bonne dizaine d'années, quoi.
Alors, dis-moi, la saison d'endurance, elle se prépare ? Comment vous travaillez un peu en ce moment ?
Ben, ça se prépare, oui. Faut pas laisser, tout du moins, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et là, on a déjà commencé les essais, on a déjà fait deux séances d'essais. En ce moment, c'est les tractations, des pilotes, plein de demandes, plein de choses qui vont se mettre en place dans la semaine qui vient. Alors donc, des préparations mécaniques, des préparations pilotes, des nouveaux choix de pilotes. Et puis, on va essayer de faire que notre équipe soit complète et officielle d'ici, on va dire, une semaine.
Donc c'est pas officiel, parce qu'on a entendu des bruits de couloir, évidemment, sur Internet notamment. Donc pour l'instant, il n'y a rien de fait.
Non, j'ai appris d'ailleurs aujourd'hui sur la route que j'avais des pilotes. Alors, belle surprise, mais je crois que c'est le sixième pilote annoncé aujourd'hui qui roule sur ma Suzuki. Donc je ne sais pas, je vais être obligé de faire plusieurs motos. Non. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est vrai. Les noms qui ont été évoqués sont des gens avec qui on est en discussion, c'est vrai aussi. Mais que je sache, je pense être averti, pour l'instant, j'ai pas de nom, moi, à vous donner. Et donc, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel.
D'accord. Et concernant la saison, donc seulement 4 courses, est-ce que c'est suffisant pour faire un championnat du monde ?
Alors non, c'est vrai qu'il serait souhaitable d'avoir 6 courses. Le problème, c'est que entre les vœux de chacun et ce qui se passe, il y a des fois un grand monde. Et là, voilà, il y a eu un petit souci, on va dire, politique pour ce qui est de l'abandon de Doha. On espérait trouver avec l'Inde et le nouveau circuit là-bas en Inde une porte d'accueil. Et puis là, on a des problèmes, j'allais dire, administratifs et douaniers qui nous empêchent de nous rendre là-bas pour des sombres histoires de papier et de documents douaniers. Donc ça paraît peut-être un peu aberrant, mais c'est comme ça. Aussi, pour faire des courses, il faut avoir tout en ordre. Et là, pour aller en Inde, c'est difficile. Donc voilà, on espère que l'année 2014, on pourra peut-être, bien sûr, se rendre en Inde si tout est arrangé, et puis peut-être, pourquoi pas, la Chine.
Et puis aussi, il y a peut-être d'autres pays européens qui seraient envisagés, parce que c'est incroyable, il y a pas mal de courses en Angleterre, par exemple, en Espagne, en Italie, sur le Superbike, en MotoGP, et pas en endurance. Pourquoi ?
Alors c'est vrai, alors le pourquoi, je ne saurais pas trop répondre. Voilà, il faut une culture pour l'endurance. Il faut que le pays, il faut que les spectateurs aient cette culture endurance. Peut-être qu'on ne leur a pas donné assez. Alors il y a un autre pays européen vers lequel on pouvait se rendre ou dans lequel on pouvait aller cette année, c'est le Portugal avec Portimao. Et puis Portimao a des soucis financiers, ce qui fait que ça a un petit peu capoté. C'est dommage parce que la structure est super jolie, c'est un beau circuit. Mais voilà, la partie financière faisant, on n'a pas pu se rendre là-bas.
Bon, par contre, même s'il n'y a que 4 épreuves, on sait que ça va être un championnat extrêmement disputé. On l'a vu cette année, ça, c'est à couteau tiré avec les autres marques. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, de ton point de vue, va se reproduire cette année ?
Oui, ça va être, je pense, plus difficile encore du fait de ces fameuses 4 courses. C'est-à-dire que si on rate une course, je pense qu'on a très peu de chances d'être champion du monde à la fin de l'année. Donc, 4 courses difficiles, c'est vrai, puisqu'on a dans ces 4 courses 2 courses de 24 heures, 2 courses de 8 heures, dont Suzuka, et c'est pas la moindre. Et puis, à nouveau, alors que tout le monde était partant, abandonnant l'endurance, eh bien, on retrouve maintenant toutes les équipes officielles, donc les 4 japonais plus la BMW. Normalement, tout le monde revient donc dans ce championnat, ce qui est bien. On retrouve aussi tous les manufacturiers de pneumatiques. Ça, c'est une très très bonne chose. Donc voilà, un championnat difficile, ouvert. Je pense qu'au niveau des spectateurs, c'est quelque chose de parfait. Au niveau des managers, c'est beaucoup plus stressant au niveau du cœur, mais on s'y fera. Et puis voilà, c'est la course. Et tant qu'il y a de la course, c'est parfait.
12 titres de champion du monde. Qu'est-ce qu'il faut encore courir, Dominique Mélian ?
Un 13e titre que j'espère on pourra glaner, peut-être j'espère cette année. Donc non. Bah, qu'est-ce qui me fait courir ? C'est toujours l'envie, c'est toujours la passion de la course. Et puis la course d'endurance, c'est une histoire d'équipe, c'est pas une histoire de bonhomme. Et j'ai une équipe qui répond toujours présente, qui est toujours partante, qui a toujours sa même petite larme quand on gagne. Donc on peut pas abandonner des gens qui croient encore à l'endurance, qui croient à l'équipe. Et puis j'aime, voilà, quand on aime, on compte plus.
Merci Dominique, tu es toujours bienvenu dans le Nord, tu le sais. Et puis sur l'antenne de Radio Campus Lille, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie.
Ah, ça te dit quelque chose, Robert, ça, ce qui vient de partir ?
Un petit de temps.
Voilà, alors, 10e édition du Mototour, Robert, l'édition où tu as participé, c'était début octobre, hein, ça a commencé la première semaine d'octobre, dans la catégorie ancienne. Il faut que tu me rappelles un petit peu
classique,
ouais. Le nombre de catégories.
Les motos de 53.
Il y a Sidecar aussi également.
Ouais, les motos de 53 à 87. Donc, ben voilà, hein, il y a un large panel de motos acceptables et puis homologables, quoi. On trouve maintenant du 1100 Jex, XXR, nous et nous XLR, les XT, BMW. Ouais. 350 CB, enfin il y avait un petit peu de tout, c'était un beau plateau. Hein. Ouais. Les RDLC bien sûr, toujours là. Hein. Donc belle bagarre.
De quoi se faire plaisir.
Ah ouais, on était 20 pilotes. Il y avait franchement 17 pilotes qui pouvaient gagner quoi, parce que des gars du championnat de France, des gars habitués au moto tour, 900 bols d'or aussi qui arrivent. Hein, donc
ah ouais bah tiens.
Sur les circuits, bon, même avec nos petits XLR 44 chevaux, j'avais un copain qui était troisième avant de crever et puis de perdre toutes ses chances. Moi, c'est pareil, avant d'avoir mon petit incident, je remontais tout doucement vers les premières places. Quoi. Donc, on a quand même des motos polyvalentes. C'est sympa. Quoi.
D'accord.
Donc, on était une belle équipe, ouais. Hein, tous les Nordistes, pour les citer, ouais. C'est difficile. Mais bon, Nordistes, Normands, on était quand même la plus grosse équipe engagée sur le mototour. On était 17 pilotes, donc un gros team. Et puis, grosse infrastructure. Et puis, bon, malgré la météo catastrophique,
alors, ça a mal commencé. Hein, 4 jours de pluie.
Ouais, l'enfer. Le lundi, c'était abominable. C'était même pas du temps à sortir un motard. Quoi, et les gars avaient tout le sourire. Même le soir.
Donc, 4h30 le départ, c'est ça, non?
Ouais,
ça commence à 14h30.
Hein. Au phare, au Zénon, tout ouais. Ça. Bon,
sous la pluie.
À Val-de-Reuil, il y avait fait beau quand même au départ.
À Val-de-Reuil, le premier matin, il est quand même parti sous la flotte pour Carole. On a eu beau temps pour Carole pour une fois. Mais c'est sûr que la météo s'est bien rattrapée les jours suivants avec un apocalypse sur Tonon.
Alors là, ça devient un gros problème. C'est ça, tu ne sèches plus. Tous les jours, tu repars, tu es complètement.
On était à 6.
Ce qui était incroyable.
Au bout d'un moment.
C'est qu'en fait, je dis à Robert, tu ne vas pas mettre les tentes. Là, en fait, j'étais à Angers et ils avaient une tonnelle et sous la tonnelle ils ruisselaient de l'eau.
Ah ben voilà.
Et ils ont jeté les tentes dans l'eau parce que de toute façon il n'y a pas le choix.
Hein. Bah non, il n'y a pas le choix. On a de la chance, c'était en bitume. Il y a des autres moments, c'était en caillasse, en terre battue. Ah ouais. Mais bon, on fait avec. On savait qu'on faisait à l'arrache parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer l'hôtel. Donc c'était tout le monde sous les Quechua. 6 pour un camion, je ne dis pas la promiscuité avec les gamins.
Ah, 6 dans la Quechua ?
Non. Dans le camion. Mais bon, voilà quoi, c'était fait comme ça, on le savait, tout le monde a pris sur soi, il y a eu une super ambiance.
Ceux qui ont un peu d'argent quand même, ils ont camping-car quand même. Hein.
Enfin, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus le moral au bout de 3 jours. Hein,
parce ça allait, je pense qu'on avait tous le mental, c'est ça, le physique, pour finir, pour partir, pour finir. Et je crois que, bon, à part notre copain Bruno, Vernassi, son XT, qui a vraiment pris.
Il a fait demi-tour.
Il s'est perdu dans la base chrono, il était mis hors course, en fait.
Il y a un petit problème aussi de, de compréhension.
Il a été rattrapé dans la journée alors qu'il était le seul à abandonner. C'est dommage parce qu'il était reclassé le soir même. Mais bon, il était déjà rentré sur l'île avec le XT sous la pluie.
De rage.
Il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne un rallye. Hein, c'est une spéciale, des parcours de liaison.
Je peux te dire que le lundi, on roulait au roadbook, on était à deux. Moi, j'étais devant, le petit jeune derrière, il m'a dit l'ancien, on le laisse devant. Quoi. Mais il y avait du monde partout perdu. Quoi. Et nous, on est arrivés 20 minutes d'avance au contrôle horaire. Et il y en a, ils sont arrivés avec une demi-heure de retard. Quoi.
D'accord. Donc, il faut respecter les limitations de vitesse, la réglementation sur la route.
Et tout ce qui s'ensuit. En plus, après, ça se départage ou sur circuit ou en spécial.
En spécial.
Et les temps cumulés font un classement. Et puis, voilà. Quoi.
Mais la journée de rallye, c'est une sacrée amplitude horaire, en fait, parce qu'on démarre tôt le matin et ça se termine tard le soir.
Voilà, ouais, c'est des journées où on se levait régulièrement à 5h et on se touchait à 22h, 22h30 après la mécanique, monter les tentes, élever. Et bon, on n'était pas à l'hôtel. Hein.
Et dans la journée, ça te fait combien de kilomètres ?
Les petites journées, c'était 350, 400, les belles journées, 550,
500,
600.
Tout ça sur une semaine, tous les jours ?
Ouais, 3000 kilomètres.
Voilà, donc la finale au Montfaron, toujours, hein, c'est une tradition maintenant, le mototour.
Et de nuit, il y avait, au dire des organisateurs, pas loin de 6000 spectateurs.
Ah, quand même.
Ouais.
Et là, c'était sous le soleil.
C'était enfin sous le soleil.
La nuit, il n'y a pas de soleil, la nuit.
Non, mais il ne pleuvait pas.
Il ne pleuvait pas. On avait quand même eu 3 degrés le matin à l'Est. Hein.
Ouais. Non, c'était sous la lune.
Voilà, c'est ça.
Non, mais il y a eu quand même de la pluie jusqu'à Valence, je pense, cette année. C'est-à-dire en démarrant de Paris, en passant par la Bretagne, par le pays de Nantais, et puis ensuite la montagne.
Ouais, en rentrant dans l'Ardèche, on a eu enfin du beau temps.
Voilà. C'était une édition vraiment très pluvieuse. Mais bon, toute l'année, on a eu des championnats sous la pluie. Donc
Oui, bah, le championnat de France des rallyes, moi j'ai fait 3 épreuves cette année. On a eu la flotte partout. Quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais.
Bah, de toute façon, ça ne va pas t'empêcher de repartir l'année prochaine.
Non, pas l'année prochaine.
Robert, on te connaît.
Non. Pas l'année prochaine. L'année dernière, je suis vice-champion de France en classique. J'avais encore un petit peu d'espoir de trouver quelques menus monnaie et euros qui traînaient. Et bon, j'ai rien trouvé. Cette année, j'ai fait 3 épreuves pour le fun. Où je me classe encore à chaque fois au podium ou pas loin, et donc là j'ai plus trop la moelle, quoi.
Voilà, et ben on cherche des sponsors.
Eh oui, mais ça c'est toujours le problème, quoi.
La moto, c'est sur campus, c'est le dimanche de 11h à midi. Robert, tu es aussi organisateur de rallye avec la quatrième balade donc des Ch'tis Givrés qui aura lieu le 2 mars.
Voilà,
2013.
Ouais, tout à fait. C'est parti bêtement la première. Les copains ont dit ouais, on fait des rallyes, pourquoi pas, tu ferais pas ça. Ouais, bon, j'ai dit bah oui, on a fait deux belles premières éditions. J'allais dire Nord-Pas-de-Calais, et puis là, l'année dernière, on est parti un petit peu chez nos voisins, et je continue cette année sur la Belgique, où il y a de belles routes, il y a des trucs sympas juste derrière la métropole. Tout le monde apprécie à 100%, les gens sont enchantés. Donc voilà, balade des Ch'tis Givrés. Il y a beaucoup de pilotes de rallye qui vont venir cette année. Parce que ben, le rallye, premièrement, le championnat de France, c'est un mois plus tard dans la Sarthe. Donc, bon, un petit entraînement, c'est au roadbook, trippy. Il n'y a pas de moyenne imposée, mais bon, c'est de bon goût de bien rouler, de ne pas se perdre surtout. C'est le principal objectif de ce rallye, de bien cerner ce que peut être un roadbook et puis de ne pas se perdre.
Quoi. Alors justement, si jamais des gens veulent se lancer sur le mototour ou autre, est-ce qu'ils peuvent te contacter pour avoir des conseils, de préparation?
Pas de souci, j'ai été contacté par un patron d'une enseigne, on va dire aussi, sur notre métropole, qui m'a dit l'année prochaine je fais mototour, tu vas me faire l'assistance et tout, comme j'en avais parlé, et puis qu'on va repartir une équipe des Ch'tis Normands, donc
Comment on fait pour te contacter, peut-être?
C'est tout simple. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Desmotowin ou Robert de Godez et vous tombez sur un de mes sites, sur les pages Facebook, qui sont vraiment des moyens maintenant de communiquer important pour ce qu'on organise, quoi, que ce soit une journée circuit comme j'organise à Clastres le 11 mai pour en venir. Privilégier les machines anciennes. C'est pas la seule journée de moto ancienne dans le coin, parce qu'on parle des motos anciennes, et soit t'es l'ami, soit t'es aussi client de ces journées. Il y a quand même le 1er mai, les copains de chez Highway, les Calaisiens. Le 11 mai, ça va être chez moi. On attend aussi les caïmans, la date.
Ça va changer, c'est plus en septembre, ce sera en juin.
Le track day de Bruno Pernasti, des amis de la moto, le dernier week-end de juin, apparemment. Donc voilà, la moto ancienne, je pense que, il y a eu 25% de fréquentation en plus au salon Moto Légende.
C'était magnifique cette année, d'ailleurs.
Je pense qu'on est des acteurs, que ce soit organisateurs ou à rouler et puis à s'amuser. Donc c'est quand même toujours intéressant. On est une région qui a pas mal de journées circuits. Quand on donne un petit peu des dates à des copains qui font partie de la Normandie, de la Bretagne, ils disent « mais c'est pas possible, vous roulez tout le temps ». Je dis « oui ». Il y a la journée Motorsport 62 aussi, où ils prennent une journée.
On n'aura pas le temps de tout faire, Robert.
Voilà, c'est ça. C'est que je pense que les organisateurs, ils font les efforts de prendre des motos anciennes pour une série et ils font le plein à chaque fois.
Très bien dit. La balade, donc, c'est 180 km le matin.
Ouais.
C'est départ donc à 9h, arrivé en gros à 13h30.
Voilà.
C'est pour un peu initier un peu les gens au rallye.
Voilà, tout à fait.
C'est le motard qui se dit tiens, je voudrais bien faire un rallye sans aller tout de suite aller sur le mototour parce que c'est le gros bazar déjà.
Je pense que.
C'est sur la journée.
C'est sur la journée, ouais.
Et puis,
c'est convivial. Il y a le petit déjeuner qui est offert. On est au chaud. Le repas du midi, ça va vraiment s'installer dans un super endroit, un vieux moulin à eau, fin fond du Hainaut. Et puis, un petit ravitaillement en route avec des céréales, du café.
Donc, en fait, comment on se repère avec les jouets trippy, donc roadbook, trippy, sur un rallye,
les gens qui ont
un gros rallye.
Les gens qui ont le trippy, je leur charge le parcours pour plus de facilité. Et ceux qui jouent le jeu, la majorité, prennent le roadbook papier pour essayer.
Les reconnaissances interdites.
Reconnaissance interdite. De toute façon, je distribue le roadbook une semaine avant, donc il y a quelques malins qui essayent d'aller se perdre déjà.
Ouais. Donc ça permet de se mettre un petit peu en jambes.
Ouais, tout à fait.
Voir un peu ce que c'est que le monde des rallyes.
Ouais.
Hein, Gilles.
Bah ouais, tout à fait.
Puis le mois de mars.
Je compte bien m'y inscrire parce que ouais, bien sûr, j'ai acheté une moto.
Tu vas te lancer dans les rallyes.
Voilà. Je vais essayer de faire un peu l'initiation avec Robert. Par contre, j'ai pas de trippy, j'ai pas de tout ça.
Je fais la moto balai. Donc c'est pas un
souci. Voilà, c'est Robert qui te ramasse.
Ça veut tout dire. Donc d'accord. Non, de toute façon, je serai sans aucune
prétention. Voilà. Donc les Ch'tis Givrés, donc samedi 2 mars.
Les débutants, enfin, c'est fait vraiment.
C'est fait pour justement
s'amuser,
faire découvrir le rallye.
On avait 3 sidecars l'année dernière.
Ouais. Hein. Ah oui, c'est le car aussi. Effectivement,
tout à fait. Ouais,
ah, tu vas pouvoir venir, la Mich.
Ah, moi, je vais pouvoir venir aussi. Je te suivrai.
Non.
J'essaierai. Bon, tu vois, je suis. Robert, c'est le 2 mars, mais 2 mars, il peut neiger.
Le 2 mars, il peut neiger.
Et alors, on fait quoi?
On reporte. C'est arrivé la première année.
On dit pas non, ça y est.
Non.
C'est ouais. déjà arrivé.
C'est déjà arrivé.
Bon, très bien. Rallye de Tunisie, c'était une première pour toi?
Ouais, c'était...
Ça, c'est un mois et demi. Hein.
Voilà, c'était début novembre, 25 degrés tous les jours. Enfin,
ah, c'est mieux, là.
Ah, d'ailleurs, j'ai vu les photos, elles sont magnifiques. Hein.
Ouais. Ils m'ont pris comme ouvreur du rallye, donc voilà, ramener tout le monde à bon port encore une fois. Et puis, bah, même sur la Tunisie, je pense que j'ai réussi le challenge de ne pas me perdre et puis de ramener ouais. tout le monde au Berkay.
C'est pareil, donc là, c'est toujours c'est au Trippie ou au Roadbook comment ça
C'était au Trippie et au Roadbook, au
D'accord.
choix.
Ouais.
Et donc, bah, voilà, des routes hors normes. Pas de jumelles, pas de radar fixe, pas d'automatique.
Le rêve.
Pas de feu rouge.
De tout moteur français.
Pas de feu rouge.
Oui.
Et une semaine de dépaysement total.
Ah, oui. ah bah je me doute bien.
Et
oui.
avec des prestations, vraiment, des hôtels et tout, c'était formidable.
T'es pas bien, cher.
Bon. Voilà, voilà.
T'as une, pour terminer, t'as un petit coup de gueule à faire à donner.
Ah oui, un petit
l'antenne.
Coup de gueule, juste en conclusion peut-être. Alors bah, c'était un petit message. Au président de Ligue, la Ligue des Flandres, dont je fais partie depuis maintenant plus de 30 ans. Quoi. J'ai connu M. Van Laar, M. Fermont, M. Jansou. Et c'était pour passer le message, pour lui dire qu'il n'y a pas de clépinotétine. Il y a des pilotes de vitesse. Il y a des pilotes de vitesse, il y a des pilotes de rallye, il y a des pilotes de Pro Twin, il y a des pilotes de VMA. Et les coupes, on s'en tape. Hein. C'est simplement une reconnaissance au niveau de la Ligue où on se tape des championnats de France, on fait des milliers de kilomètres par an pour... représenter la Ligue quelque part, parce que moi je suis du motoclub Condé-sur-Escaut, et lui dire que ben faut pas nous oublier à la remise des prix chaque année, parce que ça fait 30 ans que ça dure et il y en a ras-le-bol. Quoi.
C'est trop ciblé, c'est beaucoup, beaucoup motocross hein, et course de sable aussi. Hein.
Alors, ouais, pour le connaître un peu, ouais. on sait qu'ici il y a tel et que ouais. les choses vont évoluer, je pense.
Il y a du boulot, hein. ça fait 30 ans que j'entends ça. Hein. Mais bon, c'est pas.
Il y a espoir, Robert, il y a espoir.
Il y a de l'espoir, et c'est 2013, l'année qui est en bonheur.
Oui, normalement. Bon, voilà, l'émission se termine. Gilles, ben passe un bon Noël, ouais, un bon nouvel an, en espérant qu'on va se retrouver le 6 janvier, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein.
En espérant qu'il y aura tous les cadeaux dans la haute du
Père
Noël.
En tout cas, c'est ce qu'on a prévu quand même de se retrouver.
On a prévu de se retrouver ensemble, hein, Robert, parce qu'il y a Cléastre, il y a la rallye des Tigivray, tout ça à faire. Hein.
Et puis c'est déjà 2013, je pense qu'on est dedans.
Hein. Voilà, voilà. Ben nous, c'était notre dernière émission de 2012, on se retrouve donc le 6 janvier. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, et puis j'espère que vous allez avoir de beaux cadeaux, hein Gilles.
Ouais, puis bon, allez-y, hein, faites la fête, hein, éclatez-vous, ouais, merde. On est sur Terre, il faut y aller.
Merci Robert d'être venu ce
matin. Merci à vous surtout, et puis rendez-vous au Ch'ti Givray.
Merci, au revoir.